en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, cher ami, pour ces mots d'introduction un peu trop élogieux. Mesdames et messieurs les académiciens, c'est avec grande joie et honneur que je viens devant vous faire une communication sur le sujet « La presse à la barre du tribunal ». En fait, elle y est très souvent. Et lorsqu'on fait des comparaisons dans des colloques à l'étranger sur le droit français et ceux de ses voisins européens ou anglo-saxons, ils sont toujours étonnés lorsqu'on évoque le nombre de procès, les statistiques des procès de presse. Il y en a quasiment 10 fois plus chez nous qu'ailleurs. Et c'est un paradoxe parce qu'ailleurs, on vend plutôt plus de journaux. Chez nous, on les attaque. Ça a plusieurs explications. Et pour répondre au thème « La presse à la barre du tribunal », je vais vous répondre d'abord pourquoi si souvent, et ensuite comment ça se passe, parce que c'est effectivement une de nos grandes lois républicaines qui organise, selon des règles particulières qui dérogent au droit commun, tant sur le fond que sur la procédure, le procès de presse. Et qui font sans doute, et tous les praticien et Monsieur le Président Cotte ne me démentira pas, un procès exemplaire à maintes égards, mais ça, je vous dirai ça pour terminer. Alors, pourquoi y va-t-on si souvent? Parce que le procès de presse est, c'est une formule de feu mon confrère Thierry Lévy, en fait un salon judiciaire. C'est un lieu où on aime se retrouver pour s'expliquer. C'est sans doute très gaulois. On s'y retrouve parce que tant ceux qui attaquent que finalement ceux qui s'y défendent, et François d'Orcival ne me contredira pas non plus, aiment s'y retrouver pour s'expliquer. On y débat avec toute l'oralité qu'impose le procès pénal. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant ce procès est pénal par nature. Et donc, on s'y explique avec ce que beaucoup considèrent comme le meilleur moyen de rendre la justice, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer oralement devant tout le monde et que tout soit transparent. À l'heure où on veut transformer, vous avez dit un mot, la procédure devant les cours d'assises, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles nous, avocats, mais les autres praticiens s'y opposent. Il n'y a pas plus exemplaire non plus que le procès devant la cour d'assises parce que tout est débattu oralement. Eh bien, c'est la même chose pour le procès de presse. C'est une des particularités de la loi que d'interdire aux juges d'instruction, aux enquêteurs, de s'intéresser au fond du procès, c'est-à-dire à la vérité des imputations diffamatoires, à la bonne foi des journalistes, ceci étant expressément réservé à la juridiction de jugement. Et ce qui fait d'ailleurs de notre procédure une procédure accusatoire à maintes égards, un peu comme elle existe dans les procès anglo-saxons, où il y a une véritable égalité des armes entre la défense et l'accusation. L'accusation est le plus souvent portée par la partie civile, par le plaignant. Le procureur est un peu comme devant les juridictions administratives, un témoin des procès, et il vient dire le droit. Mais ce n'est pas lui qui se fait le principal accusateur public. Et il n'est pas rare dans les procédures que de voir le procureur se lever après la partie civile et dire que de son point de vue, le délit n'est pas constitué ou que la bonne foi du journaliste doit être connue. C'est quelque chose qui n'existe pas, vous vous en doutez, devant les autres chambres correctionnelles du tribunal. Et donc, c'est un endroit où on débat de tous les sujets qui intéressent l'opinion publique. Et c'est sans doute la raison de votre choix, il est très bon. Les plus graves comme les plus dérisoires. On vient s'expliquer. Et c'est aussi une des raisons, je vais parler surtout de la 17e, mais ce n'est pas l'unique chambre. Il y en a il y a d'autres chambres dans la presse devant les principaux tribunaux de Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux. Mais l'essentiel du contentieux se fait à la 17e chambre, puisque c'est son numéro, qu'on appelle d'ailleurs depuis maintenant une bonne quinzaine d'années la chambre de la presse, devant le tribunal de Paris. C'est une autre formule du président Montfort, qui l'a présidé pendant 10 ans. Se passe devant la 17e la loupe de toutes les crispations sociales. Et c'est moins fondamentalement la sanction ou la réparation du préjudice qui est recherchée par celui qui se plaint que ce moment d'explication publique. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, devant cette chambre, vous avez le plus souvent les chroniqueurs judiciaires qui suivent les affaires, même quelquefois qui pourraient apparaître dérisoires. Le correspondant de l'AFP prend tous les jours connaissance du rôle de l'après-midi et diffuse une dépêche pour que tout le monde sache exactement de quoi on va parler dans l'après-midi. C'est la seule chambre, même la cour d'assises, je ne crois pas, a autant de publicité qui lui est donnée. Donc c'est un lieu d'agora public qui est fondamental et qui est souvent recherché par les journalistes, et j'en viens à la raison pour laquelle tout le monde veut s'y retrouver, car les journalistes provoquent quelquefois le procès de presse pour avoir ce moment d'explication publique, pour pouvoir donner leurs preuves, pour pouvoir faire avancer une procédure quelquefois, pour anticiper sur une procédure pénale qui commence par ailleurs et dont on va débattre avant l'heure. Ce qui impose d'ailleurs au juge de prendre beaucoup de précautions au moment où on va statuer sur le caractère diffamatoire ou non et sur le caractère fondé de la diffamation si elle est établie. Il n'est pas rare, et on l'a souvent entendu dans les salles de rédaction, qu'un journaliste ou un directeur de la publication se flatte d'avoir un casier judiciaire très épais. Ce sont ses faits d'armes. C'est donc un paradoxe que de considérer, on l'enseigne quelquefois même dans les écoles de journalisme, tant que vous n'avez pas eu votre procès de presse, tant que vous n'avez pas pu venir vous expliquer devant la 17e, vous n'êtes pas un vrai journaliste. Vous n'êtes pas monté au feu. Et nous sommes nombreux à penser, je ne suis pas le seul praticien, monsieur président, notamment un collègue qui a fait l'amitié de venir, Maître Bigot, qui défend aussi un certain nombre de journaux qui est présent. Nous savons que le seul véritable déontologue de la presse, c'est le juge. C'est le juge qui vient, devant lequel le journaliste vient confronter ses preuves, vient expliquer la raison pour laquelle il a employé un affirmatif plutôt qu'un conditionnel, pourquoi il s'est contenté d'une seule source, pourquoi il n'est pas allé vérifier. Et tous vous le diront, lorsqu'ils ont passé cette épreuve, ils exercent leur métier différemment. Soit ils souhaitent le procès, ils reprovoquent. Mais en règle générale, ils ont appris à être plus prudents, à croiser leurs sources. Et quelquefois, même si le scoop peut être alléchant, ils attendent d'avoir 2-3 vérifications avant de sortir l'information. Enfin, c'est un droit libéral et une chambre libérale. De certains points de vue trop libéral. Je ne sais pas si les statistiques sont toujours à jour, mais il y a quelques années, nous avions compté que c'était à peu près 80% des poursuites qui donnent lieu à une relaxe. Là aussi, c'est extraordinaire, parce que c'est sans doute la proportion inverse devant les autres chambres correctionnelles. Elle n'est sans doute même pas de 20% de relaxe dans les autres affaires correctionnelles. Donc on y va avec une grande chance de gagner quand on est journaliste, et une grande chance de pouvoir s'expliquer publiquement devant d'autres collègues journalistes sur un fait qui, quelquefois, est passé inaperçu. Donc, une très belle caisse de résonance qui fait qu'il y a si nombreux procès. Alors, quels sont... je suis toujours dans la première partie de mon intervention sur le pourquoi. Quels sont les motifs pour lesquels on va devant un tribunal lorsqu'on est la presse ? L'infraction majeure, c'est la diffamation. Là aussi, les statistiques font qu'il y a 70 ou 80% des procès de presse qui sont des procès pour diffamation publique, ou injure, ou non-assertion d'un droit de réponse. Puis vous avez un autre pan qui, lui, est civil, mais qui vient devant la même chambre à Paris, parce que la chambre de la presse statue en matière correctionnelle comme en matière civile, qui sont les affaires de droit de la personnalité, les atteintes à la vie privée et les atteintes au droit à l'image, le non-respect de l'image des personnes dans des conditions illégitimes. Vous avez un troisième pan qui est plus récent, qui tient à l'instauration de la faute dans la grande loi de 93 qui a réformé considérablement la procédure pénale en y mettant plus de droits de la défense mais aussi plus de droits des victimes, qui est l'atteinte à la présomption d'innocence, c'est-à-dire la présentation de quelqu'un qui est sous les feux judiciaires parce qu'il est impliqué et qui est présenté comme coupable avant qu'une juridiction pénale ait de manière définitive dit qu'il l'était. Et qui, de fait, depuis son instauration, a beaucoup discipliné la presse, qui titre moins vite « le violeur a été arrêté ». Et qui était une des raisons pour lesquelles on emploie cette formule qui est, il y a un contresens, du présumé violeur ou du présumé meurtrier. Alors que la présomption, c'est celle d'innocence, c'est pas celle de la culpabilité. Vous avez un autre pan de contentieux qui prend une place de plus en plus importante, qui est toute celle sur les discriminations, le discours raciste et le négationnisme. C'est une législation plus récente qui tient à la loi Pleven de 72, puis à la loi Guesso de 90 et qui a été complétée dernièrement avec d'autres. Où là, c'est un contentieux un petit peu différent parce que ce sont principalement les associations qui existent depuis 5 ans qui ont principalement pour objet de poursuivre ce type de discrimination qui sont recevables à poursuivre. Il y a une forme de privatisation de l'action publique. Elles viennent suppléer le fait que le procureur, le plus souvent, le ministère public, ne poursuit pas et de fait s'en décharge auprès d'elle. Et donc c'est le représentant, un avocat, qui diligente la procédure pour certaines des associations. Alors il y a des grandes associations, il y en a d'autres moins connues, qui attraient les journaux. Alors ça concerne moins la presse que tout le reste du propos public. Mon sujet aujourd'hui, c'est la presse. Il y a certains journaux qui sont poursuivis parce qu'ils ont un discours idéologique, mais en règle générale, l'information n'est pas concernée par ces infractions. Et puis vous avez toute une série de publications interdites qui sont posées par la loi de 81, qui ont été ajoutées au fil du temps, qui viennent encadrer par exemple la protection de l'anonymat des mineurs, l'anonymat des victimes de viols ou d'attentats ou d'outrages aux mœurs, la protection de certains fonctionnaires de police dont l'anonymat doit être respecté. Certaines procédures qui concernent la vie privée sur les adoptions, les divorces, etc. Donc vous avez toute une série de publications, ce qu'on appelle les publications interdites, qui donnent lieu quelquefois à des procédures. Il y a également l'interdiction de publier la photo ou l'infime personne qui est emprisonnée ou qui est menottée au titre de la présomption d'innocence. L'interdiction de publication d'actes de procédure avant qu'ils aient été dus en audience public. Ça m'amène à dire un mot sur la question du secret de l'enquête et de l'instruction qui ne s'impose pas à la presse. Seules les personnes qui concourent à l'enquête ou à l'instruction y sont tenues. On tente régulièrement de faire des journalistes des receleurs du violation du secret de l'instruction. Heureusement, la jurisprudence est venue dire que s'ils ne sont pas tenus au secret de l'instruction, la seule infraction qui puisse leur être reprochée, c'est celle posée par la loi de 81, qui est l'interdiction de publication d'actes de procédure. Mais pour autant, ils peuvent faire état, et d'ailleurs il suffit d'ouvrir un journal tous les jours pour s'en rendre compte, d'affaires en cours d'enquête ou d'instruction, et sans que rien ne puisse leur être reproché. Donc ça, ce sont la liste quasi exhaustive. Si une dernière infraction qui a été qui est posée dans la loi de 81 depuis qu'elle a été promulguée, qui manifestement est ignorée ou mal connue du pouvoir actuel, qui est le délit de fausse nouvelle. Vous avez tous entendu parler du projet de loi sur les fake news. Donc le terme est anglais, mais il veut dire fausse nouvelle. Il existe dans la loi de 80. Il mérite peut-être d'être réformé à certains égards pour tenter de responsabiliser les intermédiaires de techniques de l'Internet, puisque c'est ça qui est en cause. Mais je ne suis pas sûr que ça mérite une loi nouvelle. Il suffit, comme on l'a fait au moins 50 fois depuis 1881, de réformer celle-ci en y ajoutant, en y précisant l'incrimination. Alors ça, c'était réponse au pourquoi il y a tant de procès de presse. Pour quelles raisons fondamentales et pour quel délit. Alors comment j'attire l'attention de l'Académie sur le caractère à la fois exemplaire, je l'ai dit, mais tout à fait particulier du procès de presse qui a ses règles propres. ce qui suppose d'ailleurs que le plus souvent, il soit conduit par des praticiens spécialistes ou qu'il soit en défense également, ceux-ci interviennent. Il tient au fait que la liberté d'expression est une liberté fondamentale et, selon la très belle formule de Mirabeau, est même le droit le plus précieux de l'homme. Car il est apparu au révolutionnaire de 89 que c'était celui qui garantissait tous les autres. Qu'à partir du moment où on garantissait une liberté d'expression, on pouvait dénoncer les autres atteintes, les atteintes aux autres libertés fondamentales qui pouvaient être causées. Et de fait, quand une dictature s'installe, la première chose qu'elle fait, c'est museler la presse et les médias pour en faire, ensuite faire son œuvre. Elle muselle très vite ensuite le barreau, vous en disiez un mot, mais c'est aussi une de mes préoccupations actuellement que celle des avocats en danger, juste parce qu'ils font leur métier d'avocat. Et donc, nous avons une très belle formule qui est à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous savez, fait partie du corpus constitutionnel, puisque le préambule y renvoie expressément. Et donc, c'est une norme de droit positif qui nous permet, depuis l'existence des questions prioritaires de constitutionnalité, de l'invoquer lorsque nous pensons qu'une norme ou une interprétation de jurisprudence n'est pas conforme au principe de liberté d'expression, qui pose donc que c'est le droit le plus précieux de l'homme, qui ne peut être restreint ou sanctionné qu'en cas d'abus de cette liberté et dans les cas déterminés par la loi. Donc deux exigences, mais qui sont au centre du dispositif et qui justifient l'existence de la loi de 81. La première, c'est qu'il y a un abus de cette liberté, c'est qu'on considère que cette liberté est prime les autres droits, et qu'elle ne peut être restreinte que quand on en détourne la finalité. L'abus de droit, c'est le détournement de finalité de celle-ci, le plus souvent dicté par une intention de nuire. Et la deuxième chose, la deuxième condition posée par l'article 11, c'est celui selon lequel elle ne peut être restreinte que dans les cas déterminés par la loi. Et là, on pose le principe qui est posé en matière de responsabilité pénale, selon lequel il n'y a pas de peine sans loi, et qu'il faut un catalogue des infractions pour qu'on puisse venir reprocher devant une juridiction correctionnelle à qui que ce soit d'avoir commis des faits. Il ne suffit pas qu'il existe un préjudice, réel quelquefois, il n'est punissable que pour autant que ce préjudice est causé par une faute qui est prévue par un texte. Or, c'est très exactement ce qu'impose l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui fait que c'est une responsabilité pénale qui est posée. Et donc, cette loi, elle a un intérêt majeur. Comme l'a dit le doyen Carbonnier dans une chronique restée célèbre en commentaire de l'arrêt Branly, c'est le catalogue exhaustif des infractions, des fautes que peut commettre la presse. On ne peut pas aller en chercher ou en inventer ailleurs. Il faut que le législateur par avance ait dit, voilà, la diffamation, l'atteinte à la présomption d'innocence, l'atteinte à la vie privée, les publications interdites sont strictement et limitativement les fautes qu'on peut reprocher à la presse. La fausseté de l'information, si la condition de délit de fausse nouvelle, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de troubler la paix publique et qu'elle ait été causée de mauvaise foi, n'est pas punissable. Il est loisible à un journal de dire quelque chose de faux. Et la seule chose à laquelle il s'oppose, qu'il pourrait faire face, c'est l'exercice d'un droit de réponse. Et c'est fondamentalement la raison d'être de droit de réponse. Il suffit d'être nommé dans un journal pour venir apporter un démenti dans les mêmes formes, mêmes caractères, dans les trois jours qui suivent, s'il s'agit d'une publication quotidienne. Donc ce catalogue exhaustif fait que c'est assez commode. On va voir si oui ou non l'infraction est prévue et pour savoir si on peut la reprocher à la presse. Elle a aussi un autre mérite qui est celui de donner un certain confort au juge. Et ça, c'est quelque chose qui ressort des débats et du rapport de M. Lisbonne en 1881, débat parlementaire. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas que le juge, que la subjectivité du juge, ses propres émotions, ses propres convictions, voire son idéologie, puisse en quoi que ce soit dicter la décision judiciaire. Il fallait rendre les critères le plus objectifs possible pour qu'il ait, comme un juge pénal, à considérer au cas par cas si les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non réunis, s'il y a des éléments sur le terrain de l'intention délictuelle, qui sont au non-répondre, et c'est principalement tous les débats que nous avons et les longs attendus qu'on peut voir dans l'édition Justice sur la notion de bonne foi du journaliste et de son directeur de publication, qui font que c'est une loi pénale. C'est une loi pénale et il est arrivé, dans des temps assez récents d'ailleurs, que le pouvoir politique ait eu la tentation de vouloir dépénaliser la loi de 1881. Ce à quoi tous les praticiens, avocats, qu'ils soient d'une partie ou de l'autre, les magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège qui connaissaient la matière, les journalistes et directeurs de la publication, qui auraient pu s'en réjouir en disant « c'est plus pénal, ça sera civil », s'y sont opposés, pour les raisons que je vous ai dit pour commencer. Car les meilleures garanties des droits de la défense, d'égalité des armes, d'oralité des débats, tiennent à la nature pénale de la procédure. Et il n'y a rien de pire pour un journal que de se dire qu'il sera jugé, même si le tribunal ne peut pas être suspecté d'une quelconque partialité ou d'incompétence, que d'être jugé sur simple dépôt de mémoire et dépôt de pièces, sans qu'il y ait eu ce moment d'audience, ce moment d'échange, ce moment pendant lequel on peut interroger de part et d'autre, exactement comme à l'américaine, comme on le voit dans les procès américains, les témoins qui sont cités de part et d'autre. Et de fait, il y a une dépossession de la part des présidents des juridictions qui font entendre les témoins qu'on a pu citer pour l'offre de preuve ou l'offre de preuve contraire et nous laissent à nous, avocats, le soin de diriger les débats. Alors de fait, ils sont un peu plus longs. Mais une justice qui prend son temps pour juger n'est jamais une mauvaise justice, même si les débats peuvent se terminer quelquefois très tard, et parce qu'ils prennent beaucoup de temps d'audience, être audiencé assez loin. C'est une loi pénale qui fait du directeur de la publication l'auteur principal de l'infraction. Ça mérite quelques mots d'explication. C'est une responsabilité, et c'est la seule qui existe dans notre droit pénal, de fait une responsabilité pénale pour autrui. Le plus souvent, le directeur de la publication, qui n'est pas toujours journaliste, ne sait pas du tout ce qu'on écrit. Il connaît la ligne éditoriale, il a délégué ses pouvoirs à une direction de la rédaction, à des rédacteurs en chef, à des secrétaires de rédaction. Mais lui, de fait, au moment du bouclage, s'il s'agit d'un quotidien vers 10h30, 11h du soir, il est chez lui tranquillement et il ne surveille pas tout ce qui est écrit dans son journal. Pour autant, il va en répondre s'il y a des infractions de presse comme auteur principal. C'est lié au fait que c'est la publication qui fait le délit. C'est le fait de rendre public qui cause l'infraction. Si l'article du journaliste reste sur son ordinateur, il ne cause aucun préjudice. C'est simplement parce que cette décision appartient au seul directeur de la publication, c'est pour ça qu'il a un droit discrétionnaire sur tout ce qui est publié, il n'a même pas à en rendre compte, ce qui justifie par exemple les refus d'insertion de certaines publicités sans que ça puisse être assimilé à un refus de vente. C'est lui qui prend la décision de diffuser et donc c'est lui qui répond comme auteur principal des infractions éventuellement commises. Les journalistes ne sont que des complices, une complicité par fourniture de moyens, comme le sont les personnes qui sont interviewées. Et ça vaut pour les médias écrits, quoi, pour la presse écrite, que comme pour les médias audiovisuels. Et on a même calé ce mode de responsabilité pour tout ce qui est Internet. Je ne l'ai pas dit, mais la loi de 81, qui avait été pensée en 81 pour la presse écrite, pour l'affichage, pour les livres, aussitôt que des nouveaux moyens de communication sont intervenus, aussitôt été appliqués, sans même qu'on ait eu besoin de faire une réforme législative, parce que c'est le fait de rendre public qui fait que la loi est applicable. Et donc la radio, la télévision, le cinéma et surtout Internet. Au moment d'Internet, lorsque c'est arrivé il y a 20aine d'années, on s'est demandé si c'était pas la fin de la loi de 81. Eh bien, pas du tout. Elle a intégré en son sein, et c'est d'ailleurs une des raisons du fort accroît de contentieux, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est un publicateur. Toutes les personnes qui envoient sur les réseaux sociaux, sur des blogs, des informations, des images, deviennent des publicateurs. Et la loi sur la presse, qui fondamentalement avait été adoptée pour la presse écrite, c'est-à-dire pour la presse professionnelle, pour la presse audiovisuelle, mais c'est avec des directions de rédaction, se trouve être aujourd'hui appliquée pour tous ceux qui, quelquefois l'ignorant, même si nul n'est censé l'ignorer, sont des publicateurs parce qu'ils postent un message sur un réseau social. Un mot sur le régime de responsabilité qui fait donc du directeur de la publication l'auteur principal et éventuellement les journalistes et les personnes interviewées des complices. La loi a aussi prévu ce qu'on appelle la responsabilité en cascade, la possibilité d'avoir toujours un responsable si ce directeur de la publication, c'est-à-dire cet éditeur et ce journaliste, sont inconnus. C'est dans ce cas-là l'imprimeur, et c'est une des raisons pour lesquelles on doit mettre dans l'ours de la publication le nom de l'imprimeur avec son numéro. Si personne n'a rien signé, il y a forcément un nom et une adresse d'imprimeur qui fait de lui l'auteur principal des infractions. Et s'il n'y a pas d'imprimeur, on le voit notamment en matière de tracts électoraux qui sont imprimés et confectionnés dans la nuit pour tenter d'inverser le sort électoral promis et qui souvent comportent de graves accusations. Là, l'imprimeur se garde de mettre son nom. C'est le colporteur. C'est le dernier degré de la cascade. Le colporteur qui est le principal responsable, c'est-à-dire celui qui remet le tract dans la rue. Ou celui qui le colle s'il s'agit d'un affichage. Eh bien, ce régime de responsabilité, on l'a adapté pour Internet. J'en dis un mot pour terminer, mais ce n'est pas utile à l'heure où principalement l'essentiel de ce qui est diffusé l'est sur, grâce à la diffusion sur Internet. C'est aussi le directeur de la publication, l'éditeur du message qui est le principal responsable. Mais s'il est anonyme, comme c'est souvent le cas, on a un deuxième échelon qui est l'éditeur du service, celui qui stocke l'information, qu'on appelle dans les textes le fournisseur d'hébergement. Techniquement, c'est lui qui réceptionne et qui ensuite les met dans le réseau. Ce sont les moteurs de recherche, ce sont les éditeurs de réseaux sociaux et ont cette qualité. Ils sont donc en deuxième rideau. Et on peut les attraire à la cause dès lors qu'on leur a fait connaître, par une voie assez simple qui a prévu la loi, qu'il y a un message qui est manifestement illicite et que s'ils ne le retirent pas dans un temps proche, qui est de 24 ou 48 heures, ils seraient eux-mêmes le responsable devant en répondre. Et il y a un troisième degré, alors qu'on actionne assez rarement, mais qui pourrait ressembler au colporteur du tract diffamatoire, qui est toutes les sociétés de fournisseurs d'accès, c'est-à-dire ceux qui vous branchent. Ceux-là, si l'hébergeur se trouvait dans un pays inaccessible parce que ne reconnaissant pas nos lois, parce qu'il n'y a pas de convention d'entraide judiciaire, on peut mettre en cause le fournisseur de services pour qu'il mette fin à la diffusion. Alors c'est très lourd, je ne vais pas vous exposer comment on fait, mais c'est faisable, c'est offert par la loi, et ça a été fait deux, trois fois dans notre histoire. Donc on a un dispositif légal particulier qui permet de rendre responsable ceux qui amènent le message au bout du compte si on ne connaît pas les auteurs de celui-ci, quel que soit le support de l'information. Un dernier mot sur le fait que c'est une loi de procédure. J'ai dit que c'était une procédure accusatoire, ce qui faisait que l'essentiel du débat se tenait oralement devant la juridiction de jugement, sans que le juge d'instruction ou les enquêteurs n'aient rien à faire que de s'assurer de ce qu'on a bien le bon directeur de la publication et le bon journaliste. Il y a des lois, une loi qui pose des règles de procédure particulières et en particulier une prescription très courte. Une prescription de l'action de 3 mois. C'est la prescription de l'action la plus courte que connaisse notre droit, qui tient au fait que s'il y a un grand désordre social qui justifie la saisine du juge pénal, l'intervention du ministère public pour faire valoir éventuellement ce que on doit en penser au nom de la société, ce désordre social disparaît très vite. Selon la formule, le journal du lendemain chasse l'information de la veille. Et donc, au bout de 3 mois, on estime qu'il n'y a plus de préjudice et que si l'intéressé ne s'en est pas plein, c'est qu'il n'y a plus aucune raison de le faire. Alors, cette prescription de 3 mois, on l'a portée à 1 an pour les infractions les plus graves de la loi de 81, estimant que sur Internet, on risquait de ne pas pouvoir le détecter, ce qui n'est pas tout à fait exact. Sur Internet, on détecte encore mieux que ce qui peut être affiché dans des coins un peu reculés de la France, puisqu'il suffit d'avoir des interrogations sur les moteurs de recherche pour savoir aussitôt que ça apparaît après les informations qui vous concernent. Et donc, il y a une prescription d'un an pour tout ce qui est le discours raciste, discriminatoire, l'apologie des crimes les plus graves, comme l'apologie de terrorisme. Voilà rapidement présenté le dispositif légal particulier de la loi de 80, auquel je le redis, et je suis heureux de les dire ici, car vous pouvez porter ce message à tous ceux qui pourraient décider du contraire, sont très attachés à l'existence de cette loi, à son architecture. C'est, pour reprendre une nouvelle formule du président Montfort, un magasin de porcelaine que celui de la liberté d'expression. On ne peut pas y toucher comme ça sans une infinie précaution quand on est le législateur. Je le dis à l'heure où deux lois sont discutées, une actuellement et une promet de l'être. La première, c'est la loi sur le secret des affaires, dont on nous dit qu'elle ne peut pas concerner la presse. Pour autant, on sait très bien que ce sont les révélations dans la presse qui sont en cause. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la responsabilité, certes que civile, mais vous savez, c'est surtout au porte-monnaie. Je ne l'ai pas dit, mais ça mérite de l'être. Ce n'est pas la sanction pénale qui fait peur, ce sont des peines d'amende, quelquefois avec sursis, jamais très lourdes. C'est très rare qu'on ait une grosse peine d'amende, même si le maximum est de 45 000 euros pour certaines des infractions sur la presse qui sont prononcées. Il n'y a plus de peine de prison, sauf pour les infractions les plus graves. Ce n'est donc pas la sanction pénale qui est redoutée par les journaux qui, vous le savez, vivent plutôt mal. Il y a une crise structurelle de la presse, mais je suppose qu'on l'a déjà évoqué ici, qui fait que c'est difficile pour un journal de gagner de l'argent, de vendre de la publicité, beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années. C'est la sanction civile. Et lorsqu'un journal est condamné à 45 000 euros de dommages d'intérêt, quelquefois plus, c'est pour lui très préjudiciable. Et c'est une manière pour certains qui ne voudraient pas avoir porté certaines informations dans la presse que de les museler ou de tenter de les museler en les menaçant de procédures civiles onéreuses. Et c'est un peu notre préoccupation s'agissant de ce qui est actuellement débattu au Parlement sur la notion de secret des affaires. La dernière, c'est les fake news, puisqu'elle est annoncée comme telle, qui, je vous le dis, est l'appellation anglaise de fausse nouvelle, qui voudrait la révolutionner en faisant une loi à part. Je ne vois pas qu'elle puisse trouver place ailleurs, comme je l'ai dit, qu'à l'article 27 de la loi 81, qui prévoit déjà l'infraction. Et là aussi, nous serons très vigilants sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'à l'aune de cette possibilité dont je doute, qui serait réservée à un juge en référé, c'est-à-dire en urgence, de dire cette information est vraie, cette information est fausse, et j'oblige si elle est fausse, si j'estime qu'elle est fausse, à la supprimer aussitôt, soit très praticable. Bref, pour terminer et conclure, Monsieur le Président, je suis très heureux de dire tout cela, car cette loi qui donne lieu aux procès les plus intéressants, à ce grand rendez-vous républicain, devant les juridictions où on s'explique de tout, des caricatures de Mahomet comme de la vie privée telle starlette, sont des moments fondamentaux à l'heure où la presse reste le principal lien social entre les citoyens. Et à partir du moment où, parce qu'il y a cette petite quérulence processuelle propre à notre pays, mais elle fait vivre certains avocats, pourquoi s'en plaindre, c'est au juge de dire et de donner le là, de fixer la limite, avec des jurisprudences, et je termine par là, qui font jurisprudence, des décisions qui font jurisprudence. Et le juge français, notamment en application de la norme, l'autre norme fondamentale qui est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la rédaction a d'ailleurs été empreinte beaucoup à l'article 11, puisqu'elle dit aussi voilà les cas limitatifs dans lesquels on peut restreindre la liberté d'expression, dans les cas déterminés par la loi. Eh bien, le juge français a été très inventif. Il a considéré que certaines dispositions n'étaient pas conformes à l'article 10. Il a fixé sur certaines questions des normes qui, de fait, se sont installées ensuite dans la société parce que respectées par la presse. Donc, c'est un des domaines dans lequel le juge, finalement, a son mot à dire directement dans la marche de la société, la façon de se parler, de s'exprimer, de lancer des images. On le voit, et je termine par là, sur la notion de vie privée qui a eu, parce que l'article 9 du Code civil nous dit simplement chacun a droit au respect de sa vie privée, en laissant de fait au juge le fait de dire ben, ce qui pouvait être considéré comme de la vie privée à une certaine époque ne l'est plus, et il est licite aujourd'hui pour un journal d'évoquer l'état de santé des maladies d'un homme politique ou son orientation sexuelle, tout ce qui était inconcevable il y a encore quelques années. Donc c'est une belle loi qui mérite d'être protégée parce que c'est un procès exemplaire qui lui aussi mérite d'être protégé parce qu'il est pénal. Voilà pour terminer ce que j'avais à dire sur cette question.
Merci beaucoup.